www.fm-isod.fr.
Pétante sur Radio J. Merci d'être avec nous cet après-midi. Tout de suite, un nouveau journal. Les infos vous sont présentées par Ethanit Belaïj. Bonjour Ethanit.
Bonjour Steve. Bonjour à tous. On ouvre ce journal avec un drame au sein de l'armée israélienne. 5 parachutistes israéliens ont été tués par des tirs de Tsahal dans le nord de la bande de Gaza. Pascal Sunshine.
Un événement d'autant plus tragique qu'il s'agit de ce qu'on appelle un tir ami. À Jabalia, l'équipage d'un tank n'a pas identifié à temps un poste de commandement avancé installé par un bataillon de parachutistes dans un immeuble désaffecté. En voyant du mouvement et le canon d'un lance-missile passer par une fenêtre, les soldats ont cru à des terroristes qui allaient les attaquer et ont tiré 2 obus contre le bâtiment. L'explosion a donc fait 5 tués et 7 blessés, dont 3 dans un état grave. Tsahal poursuit en tout cas son enquête.
Pascal Sunshine, notre correspondante en Israël, plus au sud de la bande de Gaza. Près de 600 000 Gazaouis ont fui Rafah depuis le début de l'opération terrestre dans la région. 600 000 d'après l'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens, l'UNRWA. De son côté, le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a annoncé une intensification des opérations à Rafah avec l'envoi de troupes supplémentaires sur place. Le Hamas n'est déjà plus en capacité de produire des armes et n'a plus de réserves. Nous sommes en train de l'asphyxier, a-t-il précisé. Sur le front nord, le Hezbollah a lancé 40 roquettes contre le Golan ce matin. Plusieurs missiles ont été interceptés par Tsahal, une attaque massive qui n'a fait ni dégâts ni blessés. Plus tôt dans la journée, après la chute d'un drone dans la région de Tibériade, l'armée a visé des cibles du groupe chiite à l'est du Liban, sur la plaine de la Bekaa. Les dirigeants arabes se réunissent à Bahreïn pour un sommet dominé par la guerre à Gaza. Les chefs d'État et de gouvernement de la région s'étaient déjà vus en novembre à Riyad, en Arabie Saoudite. Ils avaient alors condamné l'offensive d'Israël, tout en s'abstenant d'énoncer des mesures économiques et politiques punitives contre Jérusalem. Le sommet de Bahreïn pourrait cette fois être différent, dans un contexte plus favorable à l'idée d'une solution à 2 États au conflit israélo-palestinien. Le gouvernement va demander des sanctions plus lourdes contre les émeutiers et les pillards en Nouvelle-Calédonie. À l'issue du Conseil de défense présidé par Emmanuel Macron ce matin, le Premier ministre a réaffirmé l'envoi de 1000 membres des forces de l'ordre supplémentaires en Nouvelle-Calédonie, portant leurs effectifs à 2700. Gabriel Attal a aussi rendu hommage aux 2 gendarmes qui ont perdu la vie dans le cadre des émeutes qui secouent l'archipel depuis lundi. On l'écoute.
Je rappelle que 2 gendarmes sont décédés. Un gendarme a été tué hier d'une balle dans la tête. Un autre gendarme est décédé aujourd'hui à la suite d'une erreur de manipulation d'une arme. Vous imaginez bien l'état de fatigue et de tension qui règne dans nos forces de sécurité sur place et qui entraîne évidemment un accident comme celui que nous avons connu. Derrière ces 2 gendarmes décédés, ce sont 2 vies qui sont parties. Ce sont des proches, des familles. Et vous me permettrez évidemment de renouveler mon soutien, ma solidarité, celle de mon gouvernement à l'endroit des proches et des familles des 2 gendarmes qui sont décédés. Évidemment, soutien et solidarité à l'ensemble des forces de sécurité intérieure, à l'ensemble des agents publics qui sont actuellement mobilisés en Nouvelle-Calédonie, avec, je le dis, un courage, une bravoure qui force le respect et l'admiration.
Le Premier ministre à l'issue du Conseil de défense sur la situation en Nouvelle-Calédonie en début d'après-midi. La Cour d'appel de Paris a confirmé le non-lieu prononcé pour les gendarmes qui ont interpellé Adama Traoré en 2016. Cet homme était mort 2 heures après son interpellation. Cette décision déshonore l'institution judiciaire, a commenté auprès de l'AFP l'avocat de la famille Yacine Bouzrou, annonçant un pourvoi en cassation. Nous nous félicitons que la justice ait à nouveau reconnu la totale innocence des 3 gendarmes, ont eux commenté les avocats des militaires.
Bonjour, c'est Lise Gutmann.
Le 10-11, Lise Gutmann.
Ravie de vous retrouver tous les matins au programme Judaïsme, divertissement, communauté.
Radio J.
RJ.
Comme beaucoup, vous pensez que votre avenir et celui de vos enfants se jouent en Israël? Préparons ensemble votre Alia.
L'Agence juive vous invite au salon de l'Alia pour vous aider à transformer votre rêve en réalité.
Éducation, logement, santé, fiscalité, emploi.
Des spécialistes vous accompagnent pour construire les étapes de votre projet d'Alia pas à pas.
Grand salon de l'Alia à Paris, le dimanche 19 mai de 10h à 18h. Inscription obligatoire sur agencejuive.org. L'adresse vous sera envoyée après inscription.
Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyril Sarah Cohen.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Ravie de vous présenter cette nouvelle émission aujourd'hui jusqu'à 16h30 avec mon invité pour une émission spéciale, ancien ingénieur dans le domaine spatial. Durant 25 ans, il a été secrétaire général de l'association Maison d'Izieux, mémorial des enfants juifs exterminés. Actuellement, secrétaire général de l'Amicale des anciens déportés de Bergen-Belsen, Samuel Pintel parcourt la France pour faire vivre la mémoire des enfants déportés. Il sera d'ailleurs l'invité d'honneur des commémorations à Izieux. Ce sera dès ce jeudi et pendant 4 jours pour commémorer ce 80e anniversaire. Témoin historique, notre invité est donc le dernier rescapé de la rafle d'Izieux. Il raconte son histoire bouleversante dans un livre intitulé « L'enfant d'Izieux » aux éditions HarperCollins en collaboration avec Grégoire Mabi. Un échange suivi de mon coup de cœur à 16h05. Baroudeur, l'occasion bien sûr de découvrir nos invités en direct toujours sur Radio J.
15h-16h30, Cyril Sarah Cohen.
Radio J. Bonjour Samuel Pintel.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être mon invité aujourd'hui dans cette émission pour découvrir votre histoire, plus qu'une actualité, une histoire, mais aussi puisque c'est un petit peu l'ADN de cette émission. Je vous demanderai pour démarrer tout d'abord de vous décrire en 3 mots. Vous diriez lesquels?
De décrire
En 3 mots.
En 3 mots.
Oui. Qui vous êtes, votre personnalité, comment vous êtes. Peut-être vous pourriez dire en premier gentil, en 2 aimable, en 3 aimant. C'est au choix.
Voilà, je suis déjà tout ce que vous venez d'énumérer.
Mais vous diriez quoi, vous, Samuel Pintel?
Une désoccupation surtout sur la mémoire. Engagé déjà depuis plus de 20 ans. Pour la cause des enfants de la maison d'Izieux, comme j'ai retrouvé Madame Sabine Zatin dès le début, enfin dès le début, avant la création de ce mémorial, et quand ma mère avait été déportée au camp de Bergen-Belsen, dans la logique des choses, j'ai fait que la connaissance des anciens enfants de prisonniers de guerre déportés au camp de Bergen-Belsen, et j'ai noué avec eux, surtout le président de l'époque, Albert Bijelman, des liens plus que fraternels. Et voilà, ça me prend, et je me suis engagé avec cette amicale, bien entendu, et ça me prend énormément de temps.
Donc on dira pour rassembler de l'amour quelque part, engagé, parce qu'il faut être très aimant pour avoir ces occupations-là. En tout cas, il porte un intérêt important. Vous êtes engagé, on va le voir justement dans un instant avec le début, toujours le début. Samuel Pintel, vous êtes né en 1937 à Paris. Votre mère, Toba, votre père, Jacques, sont juifs polonais. Ils ont émigré de leur côté en France avant votre naissance. Et votre père alors s'engage dans l'armée française comme volontaire pendant que votre mère s'occupe de vous. Ce sont des conditions difficiles dans un petit appartement. Est-ce que vous avez des souvenirs de votre toute petite enfance?
Oui, oui. J'ai gardé de la mémoire à toutes les époques. Oui, le travail de mon père dans son petit atelier à la maison, et mes parents, et la vie avant la mobilisation, le conflit. J'ai des souvenirs, plus que des flashs.
La guerre démarre alors en 1939. Votre père est fait prisonnier de guerre en Allemagne. Et votre mère et vous échappez dans un premier temps à la rafle du Veldiv.
Parce que ma mère était femme de prisonnier de guerre et les listes remise par la préfecture de police à ceux qui assumaient cette tâche d'arrêter des familles entières. Bien sûr, ces listes ne figuraient pas les femmes de prisonniers de guerre. Donc déjà, une première chance d'avoir été épargnée, mais par la suite, ça ne va pas durer.
En février 1943, pour réduire un petit peu votre histoire, votre mère est arrêtée, transférée au camp de Douadig. Vous la rejoignez peu après et vous êtes assignée à résidence à Annecy, en zone d'occupation italienne, cela jusqu'en septembre 1943. Les rafles se poursuivent en France et on vient chercher les Juifs jusqu'à votre mère. Vous avez 6 ans. Racontez-nous ce jour.
Ce jour, alors, c'était novembre 1943. C'était à Annecy, un centre d'assignation à résidence forcée pour femmes et enfants juifs, dans une ancienne pension de famille désaffectée. Lorsque nous rejoignons ce lieu, c'est en juillet 1943, le département de la Haute-Savoie et les autres également qui sont situés à l'est du Rhône sont contrôlés par l'armée italienne qui ne persécute pas les juifs. Donc ça se passe relativement bien jusqu'à la signature de l'armistice par l'armée italienne. Nous sommes cette fois en septembre 1943. Et l'occupation complète de la France par l'armée allemande. Et le 18 novembre de l'année 1943, la fête de gendarmerie, liste en main communiquée par l'administration française, par les préfets, liste remise à jour, donc en particulier de personnes assignées à résidence et juifs, viennent arrêter toutes les personnes présentes. La FEL, gendarmerie, police militaire allemande, arrive en fin d'après-midi vers 16h30. Nous revenons de l'école, donc le rendement de la RAF n'est pas bon. Il y avait à ce moment-là près de 50 femmes et enfants. Et habituellement, les RAFs avaient lieu très tôt le matin et les Allemands arrêtaient tout le monde. Bon, certaines personnes, voyant les camions arriver, ont pu s'échapper, ont pu fuir. Moi, je rentrais de l'école avec mes petits copains et avec deux camions derrière nous. Impossible de fuir. Les quelques personnes qui sont bloquées sont réunies sur le terre-plein. C'est une ancienne pension de famille, dans le terre-plein du lieu. Ma mère se trouvait dans les étages, aurait pu fuir, je l'ai appris plus tard. Elle viendra me rejoindre, et pour le contrôle. Le responsable allemand dispose toutes les personnes, toutes les femmes et enfants qui restent, ça représente quand même 20 personnes, dont 5 enfants, en file indienne, et demande l'identité. Si le nom figure sur la liste, ces personnes sont arrêtées. On va bientôt arriver le tour de ma mère. Elle me tient la main et elle se tourne vers moi et d'un regard que je ne lui connais pas et d'une voix également va me dire « Tu me lâches la main, je ne suis plus ta mère, ne viens pas avec moi. Prends la main de la personne qui est à côté de toi. » Et à ma gauche, il y a une jeune personne que je connais certainement, après un échange de regards avec ma mère, va me prendre la main. Donc je lâche la main de ma mère et je prends la main de cette jeune femme. Arrive le nom de ma mère, son nom figure sur la liste, elle monte dans le camion. Le soldat allemand, le chef allemand, aurait demandé mon nom, ben je ne sais pas ce que j'aurais répondu. Il ne l'a pas demandé, il demande le nom de la jeune personne qui me tient la main. Elle donne son nom, elle n'est pas juive, c'est la seule personne non juive du groupe, je l'ai appris également après des recherches. Il demande quel est cet enfant, elle dit c'est mon fils. Alors vous vous mettez sur le côté. Et voilà, il n'en faut pas plus pour échapper à une rafle.
C'est comme ça que vous êtes sauvé la première fois. Toutes les personnes qui étaient aux côtés de votre mère seront déportées à Auschwitz, alors qu'elle sera transférée à Drancy, au camp Léviton, avant d'être déportée par la suite à son tour à Bergen-Belsen, pendant que vous, avant la mise en 10 yeux, vous serez quand même pas mal ballotté. Samuel Pintel.
La recommandation qui était faite bien avant la rafle était, en cas de malheur, et là c'en était un, d'aller se rendre à Annecy au bureau de l'UGIF, c'était le département œuvre de secours aux enfants. Pardon.
L'Union générale des Israélites de France, UGIF, appelé aussi comme cela.
Oui, Union générale des Juifs, bien entendu. Et bon, voilà.
Quelques jours plus tard, vous êtes emmené dans un centre d'entraide à Chambéry.
Alors, cette jeune personne, avant de partir, il faut quitter les lieux, on ne peut plus rester. Alors, donc, nous montons dans les étages, nous essayons de monter dans les étages, chercher quelques effets, puisque nous partons. De nouveau bloqué dans les escaliers, par le responsable allemand qui avait liste en main, qui nous arrête. Où allez-vous ? Ben, nous montons dans la chambre chercher des refusés. Alors, redemande une question. Votre identité. Donc, confirme. Qui est cet enfant ? C'est mon fils. Quel âge a-t-il ? Il a 6 ans. Et il nous rejette. Et nous partons comme cela, sans rien, sans brosse à dents, sans pyjama, sans maman non plus, pour rejoindre Chambéry. Que nous rejoignons par le train le soir même. Il est trop tard, le bureau de l'UGIF est fermé. Passons une nuit à l'hôtel et le lendemain matin, nous y rendons et elle me confie aux personnes du centre et elle disparaît.
Et vous n'avez jamais su ce qu'elle était devenue ?
J'ai recherché des noms, j'ai rien trouvé, j'ai lancé des avis de recherche et je n'ai rien trouvé du tout à cette jeune femme qui a pris un très gros risque et à qui je dois, comme on dit, l'air que je respire aujourd'hui.
Samuel Pintel, par la suite, vous êtes prise en charge par un homme, Niron, qui vous fait monter aux côtés d'un autre enfant dans une carriole, entre guillemets, accrochée derrière un vélo. Vous êtes là, en partance pour la maison d'Izieux. Comment se passe ce chemin ? Quels souvenirs vous en avez ?
Alors, avant de partir, l'autre enfant, c'est mon petit copain. On en parlera tout à l'heure, d'infortune avec lequel nous nous trouvions dans le camp de Douadig, d'une part, à l'hôtel des Marquisas, d'autre part. Sa mère, très amie avec la mienne, est descendue également rejoindre son fils. Elle n'était pas femme de prisonnier. Elle a été arrêtée, déportée et n'est pas revenue. Donc, on se réconforte l'un l'autre. Et un monsieur est là, un grand monsieur, venu nous prendre en charge. Ces choses faites, dans le bas de l'immeuble, il y a un vélo et une petite remorque. Accrochés au vélo, nous sommes installés dans la remorque avec une couverture sur le dos et nous roulons. Et nous allons rouler très longtemps. Ça me semblait interminable et je me souviens que c'était, je me souviens des 100 heures, l'automne, et nous roulons longtemps et à un moment assez long, la pente était raide et ce monsieur a pédalé longtemps, très longtemps.
Vous allez trouver refuge alors comme une soixantaine d'enfants à la maison d'Izieux auprès de Sabine et Miron Slatin. Tous sont juifs orphelins ou séparés de leurs parents, comme vous, mais ça vous ne le saurez qu'ensuite. Quel souvenir vous gardez de cette maison dans laquelle vous êtes resté 2 mois ?
Alors, tout d'abord, dans le contexte officiel, heureusement que cette maison, une des rares maisons encore aptes à recueillir et à protéger les enfants. Tous juifs, pratiquement. Il y a quelques exceptions, mais on en parlera éventuellement.
Des enfants de résistants ? C'était quoi, les enfants qui étaient avec vous ?
Les enfants, enfants sortis des camps. D'Agde ou Rivesalt, c'était Madame Satin, pratiquement elle-même, qui les avait sortis des camps, au-delà des quotas imposés, clandestinement. Et bon, ça c'est l'histoire de la création de la maison d'Izieux. Ils sont tous juifs. Et là, entre parenthèses, moi, à qui ma mère m'avait dit « Ne dis pas que tu es juif », j'en parlais pas. Et les autres aussi ne me disaient pas qu'ils étaient juifs. Et à cette époque, j'étais persuadé que j'étais le seul enfant juif de la maison. Alors je disais, heureusement que cette maison-là est là, heureusement que le couple Slatin s'est organisé pour accueillir des enfants bien au-delà de leurs possibilités d'accueil, et les personnes qui les encadrent également, 5 personnes qui les encadrent. Ceci dit, j'ai un très mauvais souvenir de la maison d'Izieux. Pour moi, c'est le côté obscur. Parce que j'ai été séparé de ma mère dans des conditions extrêmement contraignantes. Et ce qui me tourmentait à l'époque, c'était je ne savais pas ce qu'il allait advenir de ma mère. Où était-elle je ne sais pas où elle est. Et de mon côté, elle ne sait pas où je suis non plus. Donc, moi, je suis perdu. Elle ne pourra pas venir me chercher. Ça me travaillait. Bon, on n'a pas été accueillis à bras ouverts. Ça s'est fait doucement, avec le temps. Nous partagions nos échanges, surtout avec mon petit copain, et qui n'est pas resté très longtemps. Et deux semaines après, il a été récupéré par un membre de sa famille et il disparaît. Moi, je reste tout seul. Mais je m'intègre dans cette maison. J'ai des copains, des petites copines, et il y a une activité débordante dans cette maison. Nous sommes déjà la période de fin d'automne, et les activités, c'est dans la maison. Hein, alors que pendant l'été, la période d'été était beaucoup plus agréable, certainement pour les pensionnaires de l'époque. C'était beau, chaud, on jouait dehors, là, on joue à l'intérieur. Il y a comme une classe qui fonctionne. Il y a une institutrice. Ça prend énormément de temps. Ça veut pratiquement, ça occupe toute la journée. Le soir, donc après le goûter, sont les jeux, toujours à l'intérieur. Par contre, peut-être le jeudi, jour de congé, ou le dimanche, ce sont les promenades extérieures dans la campagne et sur les bords du Rhône.
Au départ, vous êtes le plus jeune, un des plus jeunes.
Pas le plus jeune. Les âges se situaient entre 4 ans pour le plus jeune, 16 et 17 pour les deux adolescents. La moyenne d'âge était plutôt 10 à 12 ans. Je suis 6 ans, bientôt 7, je fais partie des petits.
Dans votre livre, il y a deux personnes qui ont retenu mon attention. C'est Miron, à qui vous dédiez une ou plusieurs pages entières. Voilà, vous voulez absolument qu'on s'attarde sur cette personne qui vous a sauver la vie, qui fait partie des personnes qui vous ont sauvé la vie, mais aussi Isidore Karjman, 9 ans, votre voisin de pupitre. Qui sera lui raflé? Quel souvenir vous avez de lui?
C'était mon voisin de table, en classe. Il est un peu plus âgé que moi, il y avait 10 ans. Isidore, j'avais oublié complètement son nom. Par contre, le souvenir que j'en ai, c'est le jour de l'anniversaire de la directrice, Madame Sabine Zlatin, qui doit tomber un 13 janvier. L'institutrice nous avait demandé de rédiger un petit mot pour le souhaiter, éventuellement agrémenté d'un petit dessin. Donc, Madame Zlatin, je connaissais pas. Elle faisait des apparitions peu fréquentes. La majorité du temps à l'extérieur. Mais elle avait une charge extrêmement lourde d'organisation, essayer de placer des enfants. Pour elle, il y avait toujours trop d'enfants. Et l'institutrice m'aurait demandé de fêter l'anniversaire de Miron Zlatin. J'avais des choses à dire. Ce n'était pas le cas. Alors, éventuellement agrémenté d'un dessin, j'étais un petit peu, comme on dit aujourd'hui, un peu sec. Alors, je regardais sur du côté de mon voisin pour regarder ce qu'il faisait. Alors il écrivait un petit mot sans aucun problème, et puis il agrémentait d'un dessin très curieux. C'était un petit personnage de bande dessinée française d'avant-guerre, le professeur Nimbus. Un petit personnage avec une redingote, chauve, un gros nez et un seul cheveu en forme de point d'interrogation sur le crâne. Voilà. Je me souvenais très très bien de ce dessin. Isidore Karjman fait partie des enfants qui ont été déportés. J'ai retrouvé son dessin chez Madame Zlatin longtemps après. Et j'ai donc appris que c'était Isidore Karjman.
Vous allez rester 2 mois dans cette maison, du 18 novembre 43 à la fin janvier 44, à la maison d'Isieux, donc dans l'Ain, avant que l'on vienne vous chercher et que l'on vous sauve, encore une fois, et une grande fois, Samuel Pintel.
Fin janvier, Miron Zlatin, le directeur de la colonie, appelons ça comme ça, me dit « Samuel, tu prends tes affaires, on s'en va ». Et j'étais très content de partir. Très content, parce que c'est pas toujours très très bien passé dans cette maison. Bon, ça c'est les souvenirs un petit peu noirs d'un gamin de 6 ans, un petit peu dans des situations difficiles. Quand j'y repense, ça me paraît complètement désuet, c'est vraiment peu de choses. Mais à l'époque, c'était très important.
Vous diriez que c'était par rapport au manque d'amour ou par rapport au traitement ?
L'attention réservée à chaque enfant était pratiquement inexistante. Hein. C'était rude. C'est le qualificatif. Hein. Il fallait se débrouiller. Bon, moi, j'étais un peu câliné par ma mère, habituée à une certaine tendresse. Bon, là, ben, je m'en trouve parmi des enfants. Il faut se débrouiller tout seul. La toilette en particulier, on en a parlé. Il n'y a pas d'eau dans la maison. Il faut aller se débarbouiller dans le bassin, l'eau du bassin qui est à l'extérieur.
L'extérieur, il fait très froid.
C'est la grande joie du barbotage. L'hiver, c'est différent. La classe débute à 8 heures. Le lever, c'est 7 heures. D'après ce qu'a écrit un des enfants, le petit Georgie Alpern, qui donne des notions extrêmement précises de l'organisation et de l'emploi du temps. Le lever, le débarbouillage, il fait nuit à 7 heures du matin, et on est bientôt en hiver, et parfois il y a une pellicule de glace sur l'eau, et donc la toilette, c'est pas terrible. Et les conséquences sont également importantes.
Samuel Pintel, Jeanne et Alexis Bosselut.
Alors, Miroslatin me demande de ruiner mes affaires, c'est très vite fait, et il m'emmène sur son vélo, mais pas avec la carriole, sur le cadre. Alors, la durée du trajet est longue. J'avais estimé la distance entre Chambéry et la maison où je me trouvais, je ne connaissais pas encore le nom de cette petite localité, j'estimais ça à 20-25 kilomètres. En fait, il y en a 45, donc... faire 45 km et escalader la pente qui est le col de l'Épine, 1000 mètres, il faut du temps. Donc je me demande encore comment j'ai fait pour tenir le coup. Mais j'avais une telle espérance que j'ai dû oublier ces petits problèmes matériaux. J'espérais que ce n'était ma mère qui venait me chercher, ce n'était pas elle, mais c'était notre voisine de palier, Madame Bosselut.
Que vous connaissiez, puisque c'est la deuxième fois bien finalement entendu. Qu'elle vous sauve aussi.
Voilà, qui était venue me chercher.
Elle vient vous chercher, peu de temps après votre départ, le 6 avril 44, des hommes de la Gestapo mandatés par l'officier de police SS Klaus Barbie débarquent et raflent 44 enfants sur 61, 7 éducateurs. Ils seront déportés, gazés. C'est en regardant les images du procès de Barbie en 87 que vous avez compris que vous étiez là-bas.
Longtemps après, il aurait fallu ce procès pour, en regardant les comptes rendus d'audience, pour apprendre que je me trouvais dans cette maison.
On va poursuivre cette émission avec vous dans un instant, Samuel Pintel, une émission toute en émotion sur l'antenne de Radio J. Je rappelle cet ouvrage, L'Enfant d'Isieux, sorti aux éditions HarperCollins de Samuel Pintel en collaboration avec Grégoire Mabille. Vous restez avec nous et pour gagner ce livre, je vous rappelle que vous pouvez téléphoner au 01 77 62 72 89. Vous laissez votre nom, votre adresse et numéro de téléphone et il est pour vous. Tout de suite, c'est le rappel des titres sur Radio J.
15h-16h30, Cyrielle Sarah Cohen.
Radio J. Ça, c'est uniquement sur Radio J.
Radio J.
Radio J.
Voilà, voilà, pop.
Radio J.
Radio J.
Matin sur Radio J.
Radio J.
Radio J.
Bonjour à tous, merci d'écouter Radio J. Il est 15h30 et c'est l'heure de faire un point sur l'actualité du jour. Bonjour à tous. 10 jours après le début de l'opération israélienne à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, annonce une intensification de l'offensive sur place avec l'envoi de troupes supplémentaires. En Judée, Samarie, le terroriste qui a blessé ce matin un soldat dans une attaque au couteau au sud de Naplouse a été arrêté, et ce au terme d'une traque de 3 heures par les forces israéliennes. Au sommet de la Ligue arabe à Manama, le Bahreïn suggère une conférence internationale pour la paix au Proche-Orient. Le pays hôte appelle à soutenir la pleine reconnaissance de l'État palestinien et son adhésion aux Nations Unies. Enfin, alors que la crise se poursuit en Nouvelle-Calédonie, le gouvernement va demander des sanctions plus lourdes contre les émeutiers. Le Premier ministre a réaffirmé l'envoi de 1000 membres des forces de l'ordre supplémentaires sur l'archipel, portant leurs effectifs à près de 3000. La situation à Nouméa reste très tendue, a précisé Gabriel Attal.
Radio J.
Radio J. Le 6-9, Hélène Ferradian.
Tous les matins, à 7h45 sur Radio J, Christophe Barbier.
Je vous retrouve tous les matins dans le 6-9 d'Hélène Ferradian avec un invité politique chaque jour. C'est le Barbier du matin.
C'est tous les jours, à 7h45 sur Radio J.
Radio J.
Radio J. Radio J. Radio J. 15h-16h30. Cyril Sarah-Cohen.
De retour sur l'antenne de Radio J. Merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h30 avec mon invité aujourd'hui, Samuel Pintel. Dernier rescapé de la rafle d'Izieux pour son livre intitulé « L'enfant d'Izieux » aux éditions HarperCollins. Je le disais tout à l'heure, Samuel Pintel, 44 enfants, 7 éducateurs ont été déportés. Vous vous êtes longtemps demandé pourquoi eux et pas vous.
Oui, c'est la raison de mon engagement. Voilà, comme quelques temps auparavant passé aussi à travers les rafles, et c'était ce qui m'a beaucoup frappé. Et, bon, j'étais dans une maison d'enfants, il y en a eu d'autres qui ont été raflés. Avant de connaître le nom de celle où je me trouvais, de prendre en considération que j'étais parti. Ce qui a été l'élément déclencheur, c'est de, en retrouvant les fiches de présence longtemps après dans les dossiers de Madame Sabine Slatin, grâce à mon fils également, Simon, je vous en parlerai tout à l'heure, nous avons retrouvé donc ces fameuses listes de présence. Et la dernière liste qui avait été complétée par Miron Slatin, qui faisait ça tous les mois dans le but de les adresser au bureau de l'UGI de Chambéry pour percevoir une aide financière. La dernière, dans la dernière figure le nom des 44 et le mien. Donc je prends conscience que je suis le dernier, puisqu'il n'est arrivé personne, il n'est pas arrivé d'autres enfants après cette date. La liste de novembre est un peu plus complète et comporte les noms d'enfants qui sont repartis.
C'est ça. Donc
déjà, les 44 sont présents au mois de décembre. Donc l'effectif, ces fameux 44 enfants, étaient déjà là en fin décembre.
Donc vous étiez le 45e parti.
Le dernier à partir.
Voilà,
il n'en est pas arrivé d'autres.
Trois mois avant, approximativement, vous partez, puisque vous partez à une période approximative de 3 mois. Cette promesse de parler des enfants d'Izieux, c'est une promesse que vous avez faite à qui?
Alors, j'ai fait à Madame Slatin, en tout premier lieu, parce que Madame Slatin m'a récupéré à sa gousse.
Parce que j'étais un très petit proche, peu plus tard, voilà,
proche
vous l'avez,
de Madame Sabine
vous l'avez
Slatin.
Retrouvé.
Je vous dirai, je vous expliquerai pourquoi. Et après consultation de cette fameuse liste de janvier, de m'apercevoir que j'étais le dernier, et là encore, à partir, pourquoi eux et pas moi, je ne pouvais pas faire autrement que de parler d'eux. Mmh.
C'est un petit peu ce qu'on appelle le syndrome du miraculé dont nous sommes en train de parler. Votre mère revient de Bergen-Belsen en mai 45, vous avez 8 ans, et elle vous dit deux choses.
Alors, je l'ai retrouvée, c'est une... Alors, je m'attendais à la trouver tout amaigrie, comme, comme les squelettes qui revenaient des camps de concentration. Non, elle était plutôt enflée, faisait de l'œdème. Bon, elle m'a dit, tu as eu de la chance. Elle me dira deux fois. Tu as eu de la chance, tu n'es pas venu avec moi dans le camp où je me trouvais. Il n'y avait rien à manger. Le peu que j'avais, je te l'aurais donné. Et ni toi ni moi ne serions revenus. Et elle m'a dit, tu as aussi eu de la chance. Tu étais dans une maison d'enfants qui ont tous été déportés. Et après, elle s'est tue et ne m'a plus jamais rien dit. Et je l'ai perdu très tôt, en 1951. Et il était trop tard pour lui poser des questions.
Vous aviez 14 ans. Et vous, Samuel Pintel, vous avez toujours réussi à parler ?
Non, il a fallu attendre, comme tous les autres enfants cachés, attendre 45 ans, la fin des années 80, début 90, pour commencer à parler.
Pourquoi maintenant ?
Alors, j'ai toujours été tenté de revenir sur mes parcours. Mais je regarde quand même droit devant moi aussi. J'ai retrouvé très vite le lieu à Annecy. Le camp de Douadic, ça entre dans les recherches que j'ai pu faire 45 ans après. Bon, la maison d'Izieux. Très tôt, j'ai essayé de cibler cette maison, de localiser cette maison. Simplement des distances approximatives, estimées, 25 kilomètres, un cours d'eau situé à proximité de la commune où je me trouvais, puisque nous allions en promenade le long d'un cours d'eau, sans plus. J'ai interrogé il y avait un bureau de la Croix-Rouge qui était proche, j'ai interrogé, pensant peut-être que la Croix-Rouge apportait une aide. Non, aucune information pour ces questions. Par contre, j'ai interrogé l'archiviste de Lozé. Je savais qu'à cette époque, les maisons de Lozé existaient. J'ai retrouvé une cousine qui, elle, venait d'une maison de Lozé. Donc, Lozé. J'ai le téléphone de Lozé. Je demande l'archiviste au téléphone et je lui demande s'il y a la notion d'une maison d'enfants située près de Chambéry où je me trouvais, je donne mon nom. La réponse est totalement négative.
Vous avez fait depuis de cette histoire de vie, votre combat, votre vie tout court, Samuel Pintel. Vous parcourez la France pour faire vivre la mémoire des enfants déportés. Vous allez dans les écoles. Vous avez été secrétaire général, secrétaire général de l'association de la maison d'Izieux au mémorial des enfants juifs exterminés. Et vous serez l'invité d'honneur des commémorations à Izieux. Cela démarre ce jeudi. C'est le 80e anniversaire, c'est une commémoration qui va durer 4 jours. A priori, Emmanuel Macron sera présent.
Dimanche.
Qu'est-ce qui va se passer ?
Diverses manifestations, des cérémonies d'une part, des remises de prix pour les lauréats du prix de la maison d'Izieux, une projection d'un film consacré à Madame Sabine Slatin, deux concerts de musique, une présentation des ouvrages qui ont été écrits, dont le mien, quoi d'autre ? Oui, des rencontres, on a déjà demandé de rencontrer un groupe scolaire de plus de 100 élèves pour le vendredi entre 10h et 12h. Voilà, donc c'est très dense.
Samuel Pintel, vous avez 87 ans aujourd'hui. Comment vous vous êtes construit après tout ça ?
La résilience, il faut surmonter, je le fais. J'ai recherché, j'ai trouvé des choses, j'ai surtout trouvé des lieux, j'ai retrouvé des témoins très importants. Et quels témoins ? Et bon, j'assume. Je vous ai dit que je m'étais engagé auprès de Madame Sabine Slatin. Bon, je l'ai fait également auprès des enfants rescapés. Je rencontre également les anciens qui sont passés par la maison d'Izieux, comme d'autres. 105 enfants répertoriés sont passés par la maison d'Izieux. 44 sont allés jusqu'au terme. Nous avons lancé à l'époque, avant l'ouverture du mémorial, des avis de recherche pour retrouver les 61, ceux qui voulaient bien se donner signe de vie. Et environ 25 se sont manifestés, voilà. Et dont plus de 10 sont membres du conseil d'administration. Hein. Les anciens sont des membres de droit du conseil d'administration d'ICIEU.
Samuel Pintel, pour prendre un petit peu de hauteur à présent dans le présent, c'est le cas de le dire aujourd'hui avec vous, quand vous voyez ce qui se passe aujourd'hui en France avec la recrudescence de l'antisémitisme ambiant depuis le 7 octobre notamment, vous qui avez notamment vécu rue Jean-Pierre Timbaud, pas loin de l'habitation où résidait Sarah Halimi, rue Vaucouleur, comment tout cela résonne en vous ?
Je me retrouve début des années 40. Voilà. Bon, je n'ai pas connu les pogroms, mais le massacre du 7 janvier, c'est un
7 octobre.
Du 7 octobre, en étain et de taille. Je suis là. Alors, je vais quand même un peu impliqué. J'ai ma sœur, ma jeune sœur, qui a émigré en Israël à l'âge de 11 ans, à une famille. Habitants qui boutent très proche de la frontière libanaise, dont se trouve évacué en ce moment. J'ai d'autres membres encore, fort heureusement, de famille en Israël. Ma petite fille vit à Tel Aviv. Donc tout ça me préoccupe. Et ce qui me préoccupe le plus, c'est ce qui se passe ici même, avec un antisémitisme violent. Extrêmement violent.
Comment vous avez vécu, vous, le 7 octobre ?
Horrifié. Horrifié par ce qui s'était passé. J'aurais presque souhaité que les images prises par les auteurs de ces crimes eux-mêmes soient diffusées sur les radios, sur les télévisions. On voit les horreurs. C'est ce que j'aurais souhaité. Plutôt que d'entendre certains dire... À la limite, mais vous nous racontez des salades, ce sont des histoires, mais non, ça s'est pas passé. Voilà, une négation totale de ce qui s'est passé, ce qui les arrange bien.
Comment vous pensez que la communauté juive qui nous écoute à cet instant doit réagir ? Est-ce qu'elle se doit de se prémunir, de partir, de résister ?
Il faut résister, il faut serrer les rangs et surtout pas se laisser déborder.
Merci beaucoup, Samuel Pintel. Tout de suite, on va parler culture et on va partir au théâtre.
Et mes acclamations, mon enthousiasme, viva notre bienfaiteur ! Olé !
Olé !
Olé !
Dans cette partie d'émission, on va découvrir toute la culture sur notre sujet. Et tout de suite, Hélène Kuttner, on part avec vous, comme je le disais, au théâtre. Bonjour Hélène.
Oui, bonjour Cyrielle, bonjour Samuel Pintel, bonjour Annabelle. Et bonjour à toutes et à tous. Alors, c'est vrai que je suis un petit peu émue à plusieurs titres, mais je vais vous expliquer pourquoi. On va parler théâtre et on va parler de vie aussi, d'histoire de vie. Puisqu'il y a une dame qui croise nos deux histoires de vie, c'est Sabine Zlatin. Je vais le dire en préambule. C'est une émotion historique, bien sûr, car vous portez avec vous des souvenirs irremplaçables et une mémoire qui doit être transmise à toutes les générations, des tout petits jusqu'aux plus âgés. C'est aussi une émotion personnelle pour moi, puisqu'elle est liée à ma famille. En effet, je connaissais très bien Sabine Zlatin, qui dirigeait avec son mari la maison d'Izieux. Évidemment, Miron Zlatin, je ne l'ai jamais connue. Et comme nous n'avons pas tout à fait le même âge, cher Samuel, ce que vous dites par rapport à la découverte de tout ce que vous racontez qui est né et qui est apparu après les années 80, puisque c'est après les années 80, 85 que sont sortis tous les livres d'histoire, enfin, on a commencé à en parler. Avant, on pouvait pas en parler. C'était, voilà. Et donc, tout ça, je ne savais pas très bien. Je savais qu'il y avait une maison. Sabine Zlatin, nous l'appelions Yanka. Yanka, c'est son nom polonais. C'était une amie proche de mes parents. Je ne peux pas vous dire pourquoi, comment s'est nouée cette histoire, puisque j'ai, si, peut-être parce que j'ai un grand-père qui a participé, qui faisait partie de l'OSE. Et donc, je l'ai connue très petite. Et comme elle était peintre et collectionneuse en même temps, elle avait offert une lithographie de Picasso à mes parents pour ma naissance. Donc, cette lithographie de Picasso, je l'ai avec mon prénom derrière. Et je passais de nombreuses vacances en famille dans cette maison de lin, avec les rivières, avec les campagnes. Alors, c'était plutôt en été. Et ensuite, quand j'étais étudiante, j'ai travaillé avec elle sur sa collection de livres d'art. Je ne sais pas si vous êtes au courant, elle avait une collection de livres d'art, notamment des éditions historiques, des très beaux livres d'art sur le théâtre et le cirque.
Voilà, et on va partir au théâtre maintenant, puisque vous souhaitiez en même temps évoquer l'histoire de ces enfants, forcément, Hélène.
Oui, alors, pour évoquer cette histoire, il y a trois spectacles qui évoquent cette histoire, notamment tout d'abord un spectacle qu'interprète Richard Berry que Cyrielle Sarah Cohen a invité il n'y a pas très longtemps. Ce spectacle s'appelle L'audience est ouverte au théâtre de la Michaudière. Et parmi les grandes affaires que le comédien aborde dans la robe d'un avocat, il y a bien sûr le procès Klaus Barbie et la plaidoirie de maître Jakubowicz sur le meurtre des 44 enfants de la maison d'Issieux qui s'est tenu le 26 juin 1987. Ces enfants, on le rappelle, avec une poignée d'adultes ont été sélectionnés par Barbie pour la seule raison qu'ils étaient juifs. Ces plaidoiries sont poignantes, historiquement édifiantes et prennent une force théâtrale particulière dans ce spectacle. Il y a une autre pièce qui va être créée la semaine prochaine, le 9 avril prochain à la Scala de Paris, et qui est signée de Jean-Claude Grimbert. Il s'agit de « Moment, pourquoi les méchants sont méchants ?» Alors peut-être que vous allez répondre à cette question, c'est difficile, pourquoi les méchants sont méchants, qui va être interprété par le grand comédien Hervé Pierre et l'actrice Clotilde Mollet dans une mise en scène de leur fille Noémie Pierre. Et j'ai eu la chance, il y a deux jours, d'assister à un filage du spectacle, et je vous avoue que le texte et l'interprétation m'ont beaucoup, beaucoup émue.
Alors on se pose forcément la question, puisque le titre évocateur « Moment » indique sans doute que ce spectacle, cette pièce est dirigée à un jeune public, est-ce qu'on peut dire ça ou pas du tout, Hélène?
On peut le dire, mais c'est un piège, chère Cyrielle, car c'est toujours pareil avec Grimbert. C'est destiné à un jeune public, mais c'est destiné à tout public. Le titre est trompeur, bien entendu, car derrière ce propos, il est loin de concerner uniquement le jeune public. Jean-Claude Grimbert est l'un de nos auteurs et scénaristes français les plus talentueux. Depuis L'Atelier, dans les années 80, Dreyfus, où Maman revient pauvre orphelin, Grimbert, qui est né en 1939 et dont le père est mort dans les camps d'extermination nazis, ne cesse de mêler la poésie, la vie quotidienne et la grande histoire avec un humour décapant, une poésie et un sens acide de la provocation digne du répertoire de théâtre yiddish. Ici, dans ce spectacle, une mère dialogue avec son fils unique qui s'appelle Louis. « Maman, j'ai faim, j'ai peur, je m'ennuie », chouine le gamin. Et la mère lui répond du tac au tac dans une langue bien à elle. L'enfant se retourne dans son lit, ne cesse de l'appeler, de l'interroger sur son père qui est absent, entre guillemets, comme un courant d'air, manière d'évoquer la déportation, mais aussi sur la sexualité, sur la mort, sur la guerre, sur les femmes. Les deux comédiens sont installés dans un castelet entouré de toiles imprimées de dessins d'enfants. Hervé Pierre est la mère, avec son tablier noir, son énergie de mère courage, qui semble avoir vécu les choses les plus douloureuses. Clotilde Mollet est l'enfant, cheveux en bataille, regard effaré de l'innocent, qui cherche à décrypter le réel. Et bien entendu, à force de nuits blanches ou grises, remplies de questionnements, de crises de mais aussi de beaucoup, beaucoup de tendresse, le rapport va s'inverser. La mère va devenir le fils et inversement. Le fils, maintenant adulte, vient déjeuner le samedi midi chez sa mère qui a l'habitude de lui cuisiner des boulettes, mais elle commence à fatiguer cette mère parce qu'elle est âgée, à voir moins bien, elle ralentit ses vêtements. Et c'est au fils maintenant d'aider à soutenir sa mère, de l'aider à vivre et à survivre comme elle lui a promis à lui de survivre. C'est magnifique, drôle, émouvant et raconté avec des mots très simples.
Et vous vouliez, pour terminer cette chronique, nous parler d'un troisième spectacle donné à l'occasion des 80 ans de la déportation des enfants d'Issieux, Hélène Kuttner.
Absolument, puisque vous l'avez dit, c'est le 7 avril prochain, vous y serez, Samuel Pintel. À Issieux aura lieu une création musicale d'après le livre Les enfants d'Issieux de Roland Cos-Gibel et une musique composée et jouée par Lionel Belmondo et Laurent Finkelson. Il y aura aussi une projection de dessin du livre de Gilles Rapoport et un film réalisé par François-Marie Ponce qui a enregistré toutes les étapes de la création de ce spectacle. Alors, j'imagine que vous serez présent à cette commémoration, en tout cas, que ce soit par l'écriture théâtrale, par les livres, par les récits, par la poésie, par la musique, le dessin, cette mémoire vibrante doit survivre et être transmise aux jeunes générations. Il en va de notre devoir. Merci Samuel Pintel.
Merci à vous Hélène Kuttner. Et justement, puisque vous en parlez, on y va tout droit avec Annabelle Guiraud. Et je rappelle que le spectacle Moment, pourquoi les méchants sont méchants, de Jean-Claude Grimbert, se jouera du 9 avril au 19 juin. C'est à la Scala de Paris. Merci beaucoup. Tout de suite, c'est la chronique Flashback avec Annabelle Guiraud.
Radio J. 15h-16h30, Cyrielle Sarah-Cohen.
Bonjour Annabelle.
Bonjour Cyrielle. Bonjour Samuel. Dans cette chronique, on va aborder cette sombre période de l'histoire que vous décrivez dans votre livre sous le prisme de la culture. Allez, c'est parti. Commençons en musique avec les Rita Mitsouko et la chanson Le Petit Train. Extrait.
Truc de M, hein, Mathieu Chédid.
Nous sommes en 1952 quand Marc Fontenay écrit la chanson Le Petit Train, une mélodie sur fond de rumba qui parle de voyage en train et autobus. 36 ans plus tard, les Rita Mitsouko reprennent la mélodie avec des paroles autres, plus profondes. La chanson du Petit Train, c'est un peu l'histoire du papa de Catherine Ringer, chanteuse des Rita Mitsouko. Son papa, Sam Ringer, était un artiste peintre juif polonais. Entre 1940 et 1945, cet homme est déporté dans pas moins de 9 camps de concentration. Dans le clip de la chanson Le Petit Train, les images précisent et intensifient le sens des paroles qui auraient pu laisser cours à l'interprétation. Quand on regarde le clip, quand on plaque les paroles sur les images, on remarque des symboles qui font dire « oui, j'ai bien compris le sens des paroles ». La tragédie soudaine qu'on n'a pas vu venir, la guerre, l'ennemi allemand, la Shoah, le train de la mort.
Et on continue en musique avec un hommage juste avec Yves Duteil, Annabelle.
Oui, Yves Duteil, célèbre auteur, compositeur, interprète. De confession catholique par le baptême, Yves Duteil a des racines juives par son papa. Duteil, c'est le patronyme francisant choisi par son grand-père Eugène Jules Deutsch en 1920. Parmi ses aïeux, il y a aussi son arrière-grand-oncle, le capitaine Dreyfus. Yves Duteil, c'est un homme sensible, humaniste, amoureux des mots en musique. Le film La liste de Schindler l'a profondément marqué. De ses émotions, il en fera une chanson, la chanson des justes. Extrait.
Dans ce voyage infernal, où tant d'âmes ont sombré, celui qui sauve une étoile éclaire l'univers tout entier, des lueurs que les justes ont allumées. La porte entrebâillée dans l'escalier. Sur le dernier refuge inespéré.
Pour vous, Samuel, quelle est la chanson symbole qui pourrait illustrer cette sombre période de l'histoire?
Parmi les deux que vous avez...
Non.
Il y en a une qui était chantée par Gilbert Bécaud sur la rafle du Veldiv. Cela vous dit des choses?
Oui.
Elle n'a pratiquement jamais été diffusée.
Oui, je l'ai vu.
Alors, Bécaud d'avoir écrit et chanté cette chose.
Bon, revenons à la chanson d'Yves Duteil et on va étudier tout cela. Nous sommes en 2012, quand Duteil publie la chanson des justes. Il passera plus d'un mois sur le texte à peser chaque virgule pour être au plus proche de l'émotion du film de Steven Spielberg. La chanson des justes, un hommage mémoriel pour ces femmes et ces hommes qui ont fait preuve de fraternité et de courage. Juste. Plus exactement, juste parmi les nations. Une terminologie qui apparaît en France en 1962 après l'affaire Schindler. C'est à ce moment-là qu'une commission de désignation des justes voit le jour en France. Être juste parmi les nations. C'est une expression qui provient du judaïsme et tire ses origines du Talmud. Elle fait référence à des personnes non-juives qui, dans des situations où les juifs étaient menacés de mort, ont apporté leur aide au risque de leur propre vie et de celle de leurs proches. Juste parmi les nations, c'est des personnes de toutes conditions sociales, de toute origine sociale, de toute région. Parmi eux, beaucoup de religieux et de femmes. Être juste parmi les nations, la plus haute distinction civile décernée par l'État d'Israël. D'ailleurs, petite question pour vous Samuel. Connaissez-vous le nombre de justes parmi les nations en France?
Mais non.
Le nombre de justes?
Oui, c'est près de 5000.
Vous êtes pas loin, effectivement, c'est 4206 au dernier recensement. Soit 15% de l'effectif total mondial.
Et je crois que vous avez œuvré justement sur le sujet des justes parmi les nations, Samuel Pintel.
Oui, j'ai fait en sorte que la famille Bosselu, à qui là aussi je dois l'air que je respire, j'ai fait en sorte qu'il soit honoré par le Yad Vashem. Jeanne Bosselu et Alexis Bosselu.
On va poursuivre cette thématique en lecture avec Les enfants à l'étoile jaune, Annabelle.
Oui, Les enfants à l'étoile jaune de Mario Escobar, Golderos, paru en 2021. Dans ce livre, Escobar raconte l'histoire de deux frères juifs, Jacob et Moïse, âgés respectivement de 12 et 8 ans. On est en 1941. Les nazis contrôlent une grande partie de la France. Les deux frères sont hébergés par leur tante Judith depuis un an, pendant que leurs parents cherchent un endroit sûr où s'installer. Mais un jour, les garçons font partie de la rave du Veldiv et sont emmenés au vélodrome d'hiver, transformés alors en camp de détention. Ils savent que pour survivre, faut réussir à s'échapper. Et bien c'est ce qu'ils vont faire. Et on va suivre leur pérégrination à la recherche de leurs parents. Oui, ces deux frères, Moïse et Jacob, en fuite dans une France occupée. Confrontés à de nombreux dangers, ils vont aussi rencontrer sur leur chemin des belles âmes, courageuses, qui risqueront leur vie pour les aider. Les enfants à l'étoile jaune, un ouvrage qui mêle fiction et faits historiques, écrit par Mario Escobar Calderón.
Et on termine cette chronique avec un film documentaire sur la rafle d'Izieux.
Oui, Cyrielle, à l'occasion du 80e anniversaire de la rafle de la maison d'Izieux, RMC Story propose un film documentaire exceptionnel et inédit intitulé Rafle d'Izieux le 6 avril 1944. La maison d'Izieux, c'est un établissement, comme on l'a dit, créé par Sabine et Miron Zlatin, un lieu qui va accueillir pendant 9 mois plus de 100 enfants juifs pour les soustraire aux persécutions antisémites. Parmi vous, il y avait vous, cher Samuel. Et un jour, de 6 avril 1944, sur ordre de Klaus Barbie, des camions allemands arrivent à la maison d'Izieux et raflent les 44 enfants présents et 7 de leurs éducateurs. Ils sont acheminés vers Drancy, puis vers le camp de concentration, d'où ils ne reviendront pas. À l'heure où la rafle se produit, la directrice, Sabine Zlatin, n'est pas présente à la maison d'Izieux. Elle reviendra 3 semaines après la rafle pour récupérer tous les documents possibles, photographies, petits mots, dessins, des lettres de tous ses enfants. En 1987, Sabine Zlatin témoigne au procès de Klaus Barbie. Je vous propose un extrait de ce moment poignant.
Je demande les enfants, les 44 enfants, c'était quoi? C'était des résistants, c'était des maquisards. Qu'est-ce qu'ils étaient? C'était des innocents.
C'est par ce cri de cœur que Sabine Zlatin réclame justice, une justice attendue depuis plus de 40 ans à cette époque, hein, on est en 87. Rafle d'Izieux le 6 avril 1944, une première diffusion, avant replay, prévue le dimanche 7 avril à 23h55 sur RMC Story.
Non, je voulais juste rajouter, effectivement, c'est très émouvant de l'entendre, surtout que Sabine Zlatin n'était pas juive. Hein. Elle était polonaise, elle était engagée, son mari était engagé dans le parti communiste polonais, je crois. Je crois que lui était juif et elle pas, en fait. Voilà, donc on pourrait dire que ce serait une juste aussi.
Oui, une juste parmi les nations. Merci beaucoup Annabelle Guiraud pour cette chronique sur l'antenne de Radio J.
Radio J.
15h-16h30, Cyrielle Sarah Cohen.
Allez, vous restez encore avec nous puisque vous en avez parlé. Nous allons diffuser la chanson La Rafle du Veldiv, chanson inédite de Gilbert Bécaud, chantée par Annie Cordy sur l'antenne de Radio J. Je rappelle votre livre, Samuel Pintel, L'Enfant d'Izieux, sorti aux éditions Harper Collins. Tout de suite, on écoute cette pause musicale, le journal de l'info sur Radio J.
Le soleil crachait sur Israël et dans les gradins, nos étoiles jaunes qui faisaient honte au ciel. Du Veldiv jusqu'au bus, et des bus aux wagons, des wagons jusqu'au camp terminus.
Écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+ et sur notre appli Radio J.
Radio J.
Vous êtes assujetti à l'impôt sur la fortune immobilière.
Victor Vince, directeur général du MDA France.
Un don vous permet de sauver des vies en Israël. Le Magen David Adom n'est pas financé par l'État d'Israël. Véhicules médicalisés, matériel médical, transfusions sanguines. Grâce à votre générosité, des milliers de vies sont sauvées chaque année.
Faites de votre IFI un don en faveur de la vie. MDA France, 40 rue de Liège, Paris. MDA-France.org.
MDA-France.org.
Mai 2024, la guerre se poursuit et Israël n'en finit pas de panser ses plaies. Avec le Keren Hayesod, vous pouvez aider ceux qui ont besoin de se reconstruire psychologiquement. Ceux qui vivent encore dans des hôtels parce que leurs logements ont été détruits ou sont trop exposés aux tirs de missiles. Soutenez-les en faisant un don dans le cadre de votre IFI ou de votre IR. Nous sommes tous dans le même bateau. Faites votre don sur keren-hayesod.fr. keren-hayesod.fr.
Radio J.
Radio J.